أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. D'abord une petite introduction sur le sujet du Coran, ce qu'on doit en savoir, des choses très très simples. Ensuite les deux dimensions, à savoir un livre. C'est la dimension sur laquelle je vais insister, c'est celle de l'intelligence, l'art. Et puis, également un chemin, c'est-à-dire à partir du moment où le livre se transforme en orientation, c'est-à-dire la lumière du cœur, le qalb, et en quoi justement le livre lui-même, ce qui est central dans l'islam, c'est-à-dire notre rapport à Allah, à Dieu, par l'intermédiaire de son livre, convoque immédiatement et oblige chacun et chacune à marier son cœur et son intelligence. C'est un livre, et en cela, il a une triple perspective. La première des choses, c'est un livre qui provient de Rabbul Alamin, c'est-à-dire du Seigneur, de l'éducateur, du formateur des mondes. Et donc qui impose à l'ensemble de l'humanité qui en est consciente, c'est-à-dire à l'ensemble de ceux qui croient en Dieu et qui sont musulmans pour nous, la reconnaissance du statut de ce livre. La deuxième des choses, c'est qu'à partir du moment où il y a un livre, il y a responsabilité personnelle d'y avoir accès. Dès qu'il y a livre, il y a devoir de lecture. Dès qu'il y a devoir de lecture, il y a droit à apprendre à lire. Oui. Dès qu'il y a livre, il y a devoir de lecture. C'est la première des révélations. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Mais dès qu'il y a lit, il y a apprend à lire. Et donc, ce qui est le devoir lire, c'est le droit à l'apprentissage. Le droit à l'apprentissage de la lecture. Et ça amène aussi à la dimension de l'éducation. Toute société qui produit de l'analphabétisme et de l'incapacité à lire est une société qui empêche la conscience d'avoir accès au livre du maître de toutes les consciences. Donc c'est une responsabilité individuelle. Et en même temps, on va le comprendre, le statut de ce livre, c'est se savoir seul avec Dieu pour se savoir guidé parmi les hommes. C'est-à-dire de comprendre que ce guide, c'est nous guider parmi la vie, parmi les hommes, parmi les êtres humains. Donc la reconnaissance du Seigneur des mondes, la responsabilité individuelle et l'orientation collective. Donc, en termes d'introduction, trois choses très très rapides. La première des choses, c'est de savoir que fait partie de Arkan al-Iman, des piliers de la foi, la reconnaissance du statut tout à fait particulier du livre. Le Coran, pour la conscience musulmane, pour la foi musulmane, pour l'intelligence musulmane, pour le cœur musulman, le livre, c'est Kalamullah. C'est la parole d'Allah SWT. Avec une compréhension très très importante, c'est que le prophète a reçu la parole et l'a transmise telle qu'il l'a reçue sans intervention de sa personne. C'est-à-dire le caractère absolu de la transmission de ce qu'il a reçu. Vous m'avez bien compris, ce qu'il a reçu, il l'a reçu dans l'absolu. Il n'y a pas d'altération dans cela. Et pour nous, cela veut dire que ce livre avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'avoir une relation particulière, il nous dit d'avoir une relation particulière parce que c'est sa parole. Dieu parle par ce livre à chacun d'entre nous et pour l'éternité. Premier principe qui fait partie de « Il a révélé les livres » et parmi ce livre, ces livres, le dernier, qui a été envoyé à Mohammed ibn Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est un principe qui est très important. Parce que dans la conscience que nous devons en avoir, c'est pas un livre que tu mets à côté des autres livres dans ta bibliothèque. C'est pas un livre que tu lis comme tous les autres livres sur ton bureau ou sur ton lit. C'est un livre qui, parce qu'il vient de celui qui a tout créé, exige adab al-qira'a. Adab, c'est-à-dire le respect, l'attitude, le comportement. On ne se met pas en face de ce livre n'importe comment. On ne s'habille pas n'importe comment. On ne le lit même pas n'importe comment. Il faut faire un effort quant à la compréhension de Tilawa. Et Tilawa, c'est la psalmodie. Raison pour laquelle, quand par exemple vous êtes à côté d'un savant et qui vous dit attention, le ha, ça se dit ha, et le ha, ça se dit ha, et le tha, ça se dit tha, et le tha, ça se dit tha, ça se dit pas tha, ça se dit tha. Vous pouvez penser que c'est le détail de la prononciation, et pourtant c'est adab al-qira'a. Il y a chacune des lettres fait appel à une dimension. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous dites juste la lettre, vous faites en sorte que le lieu d'où sort la lettre est soumise au Créateur. C'est-à-dire que quand vous habituez chacune des parties même de votre corps à bien prononcer, c'est que ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous réconciliez chacune des parties même de la phonétique à bien dire la phonétique, c'est-à-dire la partie de votre de la prononciation, à faire un acte de soumission à la façon dont le texte est dit. C'est je soumets mon cœur et je travaille ma prononciation pour soumettre mon être. Il y a cette attitude-là. Et là, tous ceux qui ont été entre les mains de Chouyour pour la lecture savent combien c'est très pointu. Moi, j'avais un cheikh, il avait une petite baguette comme ceci, il était à côté de moi et chaque fois que la prononciation n'était pas bonne, hop, attention. Pourquoi? Pas pour me frapper, mais pour me dire là, attention. Attention, tu n'es pas en train de lire n'importe quel livre. Et donc, il y a un type de rapport dans la lecture, il y a un type de rapport à ce texte-là. Deuxième des choses, c'est de savoir que ce livre, il a deux dimensions. Il a l'absolu d'une descente et l'histoire des révélations. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons descendu dans cette nuit du destin, de la détermination. Cette nuit qui, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu, va se réaliser dans quelques jours et dans quelques semaines ici parmi nous, puisque c'est Shahr al-Ramadan, qui vaut plus que 1000 mois. Donc, dans l'absolu de sa descente, et en même temps, dans l'historicité de sa révélation. Ça veut dire qu'en fait, du ciel le plus élevé au ciel le plus bas, une révélation. Et du ciel le plus bas à la terre des hommes, de multiples révélations qui sont historiquement datées. 23 années de révélation. Et ce passage-là, de ces 23 années de révélation, il est fondamental pour nous. Savoir qu'un texte révélé qui vient de Dieu est lié à l'histoire d'une communauté pendant 23 années, c'est très important parce que c'est ce qui va nous faire comprendre qu'est-ce que cela veut dire que « Iqra, lis ». Tu ne lis pas dans l'absolu. Ton cœur peut être avec Dieu dans une espèce d'absolu. Comme ça, tu sens que tu es au-delà du temps, tu es avec Allah, mais ton intelligence, jamais. Jamais ton intelligence ne dépasse le temps. Toujours ton intelligence est liée au temps. Et la révélation, elle s'est faite sur 23 années dans le temps. Et tu dois, en essayant de comprendre le Coran, savoir le temps de sa révélation. Il n'y a pas un savant de la compréhension des règles du Coran qui ne connaissent pas un des chapitres de l'Ulum al-Qur'an qui s'appelle des sciences du Coran, qui s'appelle Asbab al-Nuzul, les causes de la révélation. Pourquoi ce verset a été révélé à ce moment-là et pourquoi à ce moment-là il prend telle signification? Donc un travail de l'intelligence. Donc un texte absolu qui prend ton cœur dans l'absolu, un texte historique qui impose à ton intelligence d'entrer dans l'histoire. Il dit le cœur avec Dieu et l'intelligence avec les hommes. Le même texte. Le même texte qui va convoquer les deux dimensions de ton être. Jamais en les séparant, toujours en les mariant. Et savoir que il y a une chose qui est le secret de ce livre, c'est que plus tu es avec lui, avec le cœur, plus ton intelligence s'éclaire sur l'histoire. Il n'y a pas un savant, encore une fois, même des quatre écoles sunnites ou du chiisme ou d'autres traditions, il n'y en a pas un qui vous ait dit vous pouvez lire le Coran comme un livre et sortir l'ahkam, estambat al-ahkam et tashri'iyya, c'est-à-dire sortir les règles de la jurisprudence, comme ça intellectuellement jamais. Ils vous disent tous, sans exception, Malik, Ibn Hanbal, Abu Hanifa, Shafi'i, Sofiane al-Thawri, tous ils vous disent, c'est quand mon cœur était proche de Dieu que j'ai mieux compris la règle qui parlait à mon intelligence. En d'autres termes, c'est un vrai mariage des deux. C'est-à-dire, et c'est pour ça que l'un des noms du Coran, quel est-il ? El-Furqan, le discernement. Et le discernement, c'est voir avec les yeux et sentir avec le cœur, et voir par le cœur ce que tes yeux seuls ne verraient pas. Exactement comme quand vous aimez quelqu'un. Quand vous voyez quelqu'un que vous aimez, des fois vos yeux voient, vous comprenez quelque chose, mais c'est votre cœur qui vous dit ce qu'il y a. Vous avez pu comprendre la tristesse de votre père, de votre mère, de votre frère, de votre enfant, pas intellectuellement, sentimentalement. Parce que le cœur dit des choses que l'intelligence ne voit pas. Il y a des gens qu'on comprend parce qu'on les aime plus que parce qu'on les comprend intellectuellement. Le Coran, on le comprend plus parfois avec le cœur que seulement avec l'intelligence. Des fois, tu lis le Coran, c'est qu'une histoire. Des fois, tu lis le Coran, c'est ton histoire. Des fois, tu le vis à distance. C'est l'histoire de Moussa, alayhi salam. Des fois, c'est toi. Des fois, tu lis l'histoire de tous les prophètes, c'est eux, et des fois, c'est toi. Tout dépend de là où est ton cœur. Des fois, tu fais la prière, c'est la prière d'un autre, qui n'y était même pas. Ton corps y était, ton cœur n'y était pas. Puis des fois, c'était ta prière. Le Coran, c'est ça. C'est ce livre qui dit, tu me comprendras quand ton cœur sera marié à ton intelligence. Et vous allez voir comment, dans ce qu'on va dire. Troisième élément, c'est justement ces noms. Alors, le premier nom, c'est le Qur'an, le récit, la lecture. Le deuxième, c'est Nour, la lumière. Qu'est-ce que c'est Nour ? C'est ce qui permet de voir le réel, de voir le monde. C'est ce qui t'éclaire, c'est ce qui te montrera la route, la lumière. Deuxième, c'est Dhikr, le rappel. Nous avons fait descendre le rappel, c'est le Coran, et nous le préservons. C'est-à-dire de savoir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il nous a dit, et ce qu'on doit comprendre nous, c'est que ce livre-là, il est préservé de toute altération. Et plus de 1400 ans plus tard, ce que nous avons, c'est une confirmation de cela. Il est préservé de son altération. El Furqan, ce que je viens de dire, le discernement. C'est-à-dire voir plus loin que simplement la seule lecture. Ça vous permet de voir plus loin que le réel. Ce qui est aussi une chose qui vient pour les gens qui atteignent un certain niveau de spiritualité, ce qu'on appelle le karamat. Le karamat, ce sont ces qualités des hommes qui voient au-delà de ce que le commun voit. Et des gens, on vous dit, leur relation avec le Coran est telle qu'à des moments, quand ils vous regardent, ils voient plus que ce que vous montrez. Et vous savez, le secret, c'est que vous vous en rendez compte. Vous voyez qu'il a vu plus. Il y a des gens dans la proximité desquels vous êtes gênés. Il y a des gens dans la proximité desquels leur cœur dit ce que tout dans leur être aimerait cacher. C'est un jeune homme qui vient le matin voir son guide spirituel, son cheikh, qui a raté Salat al-Fajr, qui vient devant lui, et son cheikh le regarde droit dans les yeux et lui dit « Attention à être précis avec tes prières. »
Il lui avait rien dit, il a tout vu. Ra'aha man ra'aha wallahu a'lam. C'est ça que le Coran donne aussi comme dimension spirituelle, une dimension qui est une dimension au-delà de ce que le commun a. Et toute l'histoire de l'islam montre cette dimension. Il y a ces secrets-là, le Furqan. Et là, on est vraiment dans la dimension spirituelle. Ce n'est pas le livre qu'on comprend uniquement avec son intelligence. Donc ça, c'est des éléments majeurs. C'est-à-dire un livre qui nous est révélé, une dimension sur 23 années avec une historicité qui impose que nous ayons de l'intelligence pour bien comprendre. Et puis la troisième des dimensions, effectivement, c'est la dimension de ces différents noms qui nous donnent une perspective de ce que c'est que ce chemin. Alors, entrons dans la réflexion sur ce texte. Vous ouvrez le Coran et vous trouvez le Fatiha, la liminaire, celle qui ouvre. Puis ensuite, vous entrez dans Surat al-Baqara, la vache. Alors, Allah Ta'ala dit tout de suite une chose. Vous savez que le prophète, al-Sallam, recevait le Coran comme ceci, en petits morceaux, et même certains orientalistes ont dit oui, avec des petits morceaux, il a fait un livre. Alors que tout de suite, et dans les versets du Coran, il sait que c'est un livre. Il sait qu'un livre est en train de se constituer parce que Jibril, alayhi salam, vient chaque Ramadan, à cette époque-là, lui dire ce passage-là, la répète. Il sait que le livre se constitue. Et d'ailleurs, le Coran, première sourate qui est révélée à Médine, quelle est-elle? C'est sourate al-Baqara. C'est un livre. Ce livre. Et vous remarquerez que pour ceux qui sont des connaisseurs de la langue arabe, c'est Dalika montre la dimension de la distance. Dalika, c'est ce qu'on montre loin. Donc, la conscience qu'il y a un livre loin et que ta révélation est proche. Et que ce qui va se confirmer par la suite, c'est qu'il y a le livre et le livre. C'est-à-dire le livre qui se constitue, qui est à l'image du livre qui est auprès d'Allah SWT, qui a été toute la discussion autour du caractère incréé du Coran. Mais n'entrons pas dans ce détail-là. Bien. Donc ici, donc il a conscience qu'un livre se constitue. Il n'y a pas de doute dans ce livre. Ça veut dire quoi? Il est venu de Rabbul Alamin, c'est-à-dire il est révélé ainsi. Mais ce n'est pas fini. Hudan lil muttaqin. Donc ce livre-là, tu ne vas pouvoir le considérer comme un guide, une direction, que si tu as la conscience de Dieu. En d'autres termes, le livre ne te livre les secrets de sa lumière que quand il y a déjà de la lumière dans ton cœur. Il faut croire en lui pour mieux comprendre ce qui t'est dit à ton cœur. Mais ce qui est tout à fait étonnant, c'est que parfois, quelqu'un ne croit pas ou quelqu'un doute et le livre l'appelle pour le ramener à être taqwa, c'est-à-dire la conscience d'Allah, la piété. Mais le secret du livre, il vient avec la piété. Hudan lil muttaqin, c'est-à-dire c'est cette reconnaissance d'Allah SWT qui va te livrer le secret du livre. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, à savoir, il y a Allah, il y a Dieu qui révèle ce livre. Et dans la reconnaissance de Dieu, on trouve la direction de son message. Raison pour laquelle vous avez des gens qui ne croient pas en Dieu et qui prennent le Coran, qui ne croient pas en cela. Et c'est légitime que certains n'y croient pas. Pas de problème avec cela. Et quand ils lisent le livre, vous voyez bien qu'ils y voient autre chose que ce que vous y voyez. Oui, je prends un exemple. Un étudiant, une fois, lit le Coran, arrive en cours d'islamologie, il dit « Mais j'ai lu le Coran. » C'est plein de répétitions. On répète toujours les mêmes histoires. Il lit le livre avec quoi? C'est vrai en fait, si vous lisez le livre intellectuellement et rationnellement, le livre sur le Moussa, alayhi salam, elle vient plusieurs fois. Et Aïssa, alayhi salam, la même chose. Donc on a des histoires qui se répètent tout au long du livre. Ce que lui voit intellectuellement, c'est la répétition d'une histoire qui est toujours un peu la même, et puis bon, ben, on répète quoi. Et vous, quand vous arrivez avec le taqwa, cette répétition, elle a un autre sens. Ce qui, pour lui, est une répétition intellectuelle, est dans votre cœur une confirmation spirituelle. Hein? L'histoire qui se répète se confirme. par le cœur. L'histoire qui se répète ne fait que se répéter par l'esprit. C'est exactement la même chose à un ordre, et je prends toujours cet exemple pour bien vous faire sentir les choses dans la vie personnelle. Quand vous dites à quelqu'un, tu vois la porte qui est là-bas, ferme-la. La porte qui est là-bas, ferme-la. Vous lui répétez 4 fois, il dit, bon, j'ai compris, il faut fermer la porte. Là, j'ai parlé à son intelligence. Mais si je dis 4 fois à la personne « je t'aime », elle va pas me dire « bon ben j'ai compris, tu m'aimes ». Quand on parle à mon cœur, on ne répète pas, on confirme qu'on aime. Quand on parle à l'esprit, on ennuie l'esprit par la répétition. Et tant quoi, c'est la confirmation quand on est avec Allah Ta'ala dans cette dimension-là. Alors que la répétition intellectuelle, c'est effectivement quand on n'y a pas le cœur. Donc, premier des éléments, c'est que l'accès à ce livre-là, elle suppose un travail sur le taqwa. Et le prophète, en montrant sa poitrine, a dit « on a taqwa », c'est-à-dire ça se travaille à l'intérieur. En d'autres termes, plus tu travailles spirituellement, plus les secrets du Coran te sont livrés, et plus les secrets du Coran te sont livrés, plus tu travailles spirituellement. C'est ce qui s'appelle un cercle vertueux. Quand tu entres dans cette dimension-là, tu sens que tu vas de plus en plus loin. Tu sens que tu n'as jamais fini d'avancer. Chaque fois, le Coran te livre plus et plus de secrets. Mais c'est un cercle vertueux. Et plus ton cœur se ferme, plus le Coran se voile. Plus ton cœur se ferme, plus le Coran il commence à devenir vraiment un livre à distance. Si tu n'es pas proche de lui, tu es loin de toi. Et si tu es loin de toi, tu commences à être aveugle à son sens. Et une dimension comme ceci d'un véritable rapport. Et le moi, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن, le mois dans lequel il faut à plus forte raison ouvrir, faire cet effort sur son cœur, c'est ce mois, c'est cette école. L'école d'un mois pour être avec le Coran pendant les 11 mois qui suivent. Un vrai travail sur soi. Jihad al-qira'ah. Il y en a certains parmi vous dans cette salle ici, il faut leur dire, tu es entré dans jihad al-qira'ah. L'effort de la lecture. Parce qu'ils sont tellement loin pendant toute l'année, qu'au moins pendant ce mois, il faut un véritable effort, un effort spirituel de se prendre du temps pour lire le livre. Et ça, c'est une dimension qui est fondamentale pour nous. Il ne faut pas penser que le jeûne du ramadan, c'est se priver de boire et de manger jusqu'à 5h30 tout à l'heure là, puis aller en voiture après on mange. C'est vraiment une dimension, une disposition spirituelle d'aller chercher les secrets de cette révélation aussi. Et si vous saviez les bénédictions du jeûne, vous savez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parfois, il vous donne de la lumière dans votre cœur quand votre estomac est vide. C'est-à-dire que comme vous n'êtes plus dans la même disposition spirituelle, vous êtes avec un estomac qui est vide, et vous savez que c'est pour lui que vous le faites. L'Illah et Fakat, c'est pour lui que vous faites ça. C'est pour lui parce qu'il est le seul à le savoir, à la limite. Et bien, vous le faites pour lui, et parfois, par le fait que vous ayez faim, la proximité du livre vous donne une autre nourriture. Il peut remplir votre cœur quand vous êtes en train de vider votre estomac. Et parce que vous êtes dans une disposition différente. Ça, c'est une dimension sur laquelle il faut vraiment que nous comprenions. La deuxième des choses, c'est que donc il faut être taqwa pour cette réalité-là, puis il faut comprendre le statut du Coran. Dans Sourate Ar-Rahman, que vous connaissez, ou en tout cas vous connaissez le début, A'udhu billahi minash shaitani ar-rajim, bismillahir rahmanir rahim, Ar-Rahman, 'allama al-Qur'an, khalaqa al-insan. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman, le tout miséricordieux. La première des dimensions, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que la révélation du Coran, c'est une rahma. Il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala, il faut remercier Dieu d'avoir ce Coran parmi nous. 'Allama al-Qur'an, il le dit avant de dire khalaqa al-insan, ce qui est étonnant. On aurait pu penser qu'il a fait l'homme, puis ensuite, non. C'est pour montrer le statut du Coran. Il est le lien entre Ar-Rahman et l'Insan. Il est le lien entre Ar-Rahman, le miséricordieux, et l'homme. Et il a mis à côté du Coran un mot, Allama, la connaissance. Et le Coran suppose la dimension fondamentale de la connaissance. Et c'est ce que vous avez dans la première révélation. Aqra. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqra. Bismi rabbikal ladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Aqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. 'Allama al insana ma lam ya'lam. Lis par ton Seigneur qui a créé l'homme d'un caillou de sang et qui lui a enseigné par la plume et qui lui a enseigné ce qu'il ne savait pas. Le Coran, ça doit être la révélation d'une connaissance. Et la connaissance, elle va être de deux types. Elle va être la connaissance intellectuelle et elle va être la connaissance spirituelle. C'est l'ilm ou al-ma'arifa. Ma'arifatullah, c'est connaître Dieu. Et l'ilm, c'est connaître les choses. Et il faut passer du ilm ila al-ma'arifa. Ou min al-ma'arifa ila al-ilm, c'est-à-dire du savoir commun des choses à la connaissance de Dieu et de la connaissance de Dieu à une meilleure connaissance des choses. Ce travail-là, c'est le sens même du Coran dans notre vie, qui n'apprend pas, qui n'étudie pas, qui ne fait pas un travail sur lui d'acquisition de la connaissance de ce texte, mais ce texte, il parle de tous les textes de la terre. Ce texte nous parle d'un autre texte que nous disaient les savants, il parle du texte du monde. Et le monde, il est plein de textes. Il a un texte biologique, il a un texte physique, il a un texte mathématique, il a un texte astronomique, il a plein de textes. Ce texte vous parle de tous les textes. Et la connaissance de ce texte vous renvoie à toutes les connaissances du monde. Il n'y a pas en islam cette idée, il y a la connaissance du Coran qui annihilerait ou qui interdirait la connaissance des autres choses. Non, cette connaissance-là renvoie à toutes les connaissances comme toutes les autres connaissances renvoient à cette connaissance. Et c'est un véritable chemin. Et l'ilm, c'est une ibad, c'est-à-dire c'est une adoration. C'est pas uniquement quand vous vous mettez comme ceci en face d'Allah subhanahu wa ta'ala que vous vous mettez à prier que vous êtes en train de l'adorer. Qui d'entre vous prend un livre et dit Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu le miséricordieux, le tout miséricordieux, quand vous dites ça et que vous commencez à lire n'importe quel livre avec l'intention d'en savoir plus, vous priez. Vous êtes en train de prier. Simplement, si vous savez ce que c'est que le savoir dans la vie d'un homme, vous êtes en train de prier. Non, nous, je prie 5 fois par jour et je lis entre les prières. Mais non, apprendre, c'est prier. C'est prier naturellement. Tout ce que vous faites avec le souvenir de lui est une prière, c'est une sadaqa. Je veux dire, depuis que je suis arrivé là, je vous fais de temps en temps des sourires, vous ne le savez pas, mais moi j'engrange des hasanats. En termes commercial, ça rentre. C'est vrai, et vous aussi. D'ailleurs, vous ne souriez pas assez, les frères. Non, mais c'est vrai, c'est sourire, sans d'apprendre le sourire. Ça, c'est des choses, c'est quoi? C'est des... Alors, le savoir, il est à ce niveau-là. Il est au niveau de la prière. Alors, posez-vous la question. Quand on sait le statut du Coran dans la vie, on sait le statut du savoir pour la vie, et on sait le savoir pour Dieu. Et tous les savoirs deviennent utiles, tous. C'est pas uniquement... Il y en a qui confondent apprendre le Coran par cœur avec le savoir. C'est bien, il faut apprendre. Hafzul Coran, c'est quelque chose de très important. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala en suivant le prophète sallam dans l'invocation, Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nasina, c'est-à-dire on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner du Coran ce qu'on a ignoré et de nous rappeler ce qu'on a oublié. Bien sûr. Mais attention, c'est un apprentissage par cœur mais avec la compréhension. Les compagnons du prophète, paix et bénédiction soient sur eux tous, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, mais nous, on lisait, on apprenait 10 versets et on ne commençait à apprendre 10 autres versets que quand on savait ce que ça voulait dire. C'est pas la mécanique de l'apprentissage, c'est je comprends. C'est-à-dire, j'essaye de mettre mon intelligence au service de ma mémoire et non pas ma mémoire en absence d'intelligence. Et ça, malheureusement, c'est ce qui nous arrive souvent. Beaucoup de mémoire, peu d'intelligence. Non, de la mémoire servie par de l'intelligence et de l'intelligence qui illumine la mémoire. C'est-à-dire que tout à coup, quand vous êtes dans une situation de la vie, la mémoire du Coran vous vient et son intelligence vous aide et vous trouvez une solution pour agir. Mais la mémoire et l'intelligence. Pas la mémoire que l'on répète. Ça s'appelle comment? C'est une chose qui est déterminante et qui est une des maladies de l'islam aujourd'hui, c'est at-taqlid, l'imitation. Je répète et je ne comprends pas. Et puis parfois, on répète tout ce qui va nous protéger de la compréhension. On a quelqu'un qui nous agresse, on a quelqu'un qui nous pose une question, on a quelqu'un dans le regard, il ne nous aime peut-être pas tellement, alors pour se rassurer, on utilise le verset comme une défense, pas comme une compréhension. Alors on regarde quand il y a par exemple un chrétien qui nous a interpellé sur une question qui nous a gêné, ou un juif qui nous a interpellé sur une question dont nous n'avions pas la réponse, on regarde Les juifs et les chrétiens ne seront pas contents de toi jusqu'à tout ce que tu suives leur... Voilà, ça n'est pas de la citation intelligente, c'est de la citation protection, c'est de la trahison. C'est trahir le sens du texte, et uniquement pour se protéger, c'est de ne pas comprendre ce que ça veut dire, parce que ce verset-là, il a une compréhension très profonde. On ne joue pas avec ce verset du haut des mimbars pour mettre à feu et à sang les gens en disant « tu vois, ils ne veulent pas de toi ». Non, il y a tout le message de l'islam vous dit « om min ahlil kitab ». Ils sont des gens du livre, et faites attention, celui d'entre vous qui sera injuste avec eux, je témoignerai contre eux le jour du jugement dernier. C'est ça l'essentiel aussi. Donc il ne faut pas utiliser ces versets uniquement pour se dire, attention, ils ne sont pas là contents avec nous, et pour se protéger de regarder en face nos propres insuffisances. Peu sûr de soi, le mieux c'est de rejeter les autres. Non, c'est pas ça. On n'utilise pas le Coran comme ça. Le Coran, ça n'est pas... l'utilisation pour tirer sur tout ce qui bouge quand on ne sait pas comment se protéger. Et ça, nous, on est des champions. Même dans le couple, c'est comme ça. Dès qu'on ne sait plus comment être avec son mari ou avec sa femme, et un petit verset du Coran pour lui dire « Tiens, inna kaïdahunna azim !» Tu vois, elles sont rusées, les femmes. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y en a qui sont des champions. Tu ne les vois pas citer le Coran, mais dès qu'il s'agit de se disputer... Et ça, on l'a vu dans le couple et on le voit contre les savants. C'est ce qu'on appelle les tafatis. C'est des gens qui se lancent des versets comme ça, simplement en les citant, ou des fatwas, simplement en les citant. Ça n'est pas ça, la compréhension du Coran. Vous ne pouvez pas faire ça avec le Coran. Alors là, on en rit. Mais j'aimerais vous dire que l'état de notre communauté, dans la relation qu'il y a avec le Coran, ça peut faire pleurer. Ça peut faire pleurer parce que c'est des véritables versets tribunaux. Ce ne sont pas des versets lumière, ce sont des versets tribunaux. Je te juge au moyen de ma citation. Et en plus, on se donne le droit de ne pas supposer qu'on interprète. Quand je cite, j'ai dit la vérité du Coran. Bon, ça, c'est un élément qui est important et donc qui va supposer une intelligence. Dès qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Iqra », il nous dit « lis ». « Lis », c'est-à-dire « mémorise »,« prends ». Mais ça veut dire aussi « comprends ». « Comprends ce qui t'est donné ». Alors, cette compréhension, elle a trois dimensions. La première des choses, c'est comprendre le sens de la révélation. Le sens de ce qui nous est donné. Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé un langage arabe simple pour que nos intelligences comprennent. Ce n'est pas un livre compliqué en matière de compréhension. Et faites attention, ce n'est pas un livre compliqué en matière de compréhension, mais c'est un livre profond en matière de signification. Ce n'est pas pareil. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en fait, vous tirez du Coran ce que votre intelligence y voit. Il y a des gens, ils lisent du Coran et quand tu les écoutes, même ça arrive avec des chers. Vous n'avez jamais remarqué des chouillots comme ça. Vous asseyez en face de certains et ce qu'ils vous disent du Coran, c'est juste, c'est ce qui est écrit. Mais c'est que ça. Et tu t'assieds en face d'un autre, tu dis, subhanallah, où il est allé chercher ça. C'est que dans le texte, c'est son intelligence qui lui a permis d'en tirer plus. Et il y en a, et moi je me suis assis en face des fois de chouillots, subhanallah, ils vous prennent, mais vous dites, mais je n'y aurais même pas pensé avec trois fois plus d'intelligence que ce que j'aurais, ce que j'ai. Ils vous emmènent tellement loin, vous dites, subhanallah. Moi, par exemple, une chose qui m'a vraiment... Je vous donne un exemple. Ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Oh, vous qui portez la foi, ne rentrez pas dans des demeures avant d'avoir demandé la permission et de saluer sur les gens qui y sont. Bon, n'entrez pas dans les demeures, hein. Vous êtes en face de la porte, n'entrez pas chez quelqu'un. Et il y en a un cher sage lit une fois un passage et il dit, vous savez ce que ça veut dire aussi ? Ça veut dire que quand vous êtes en face de quelqu'un, son cœur c'est sa maison. Vous ne rentrez pas dans le cœur de quelqu'un avant de lui demander la permission et de lui saluer. C'est-à-dire, en fait, avoir la psychologie du cœur de qui tu parles. Savoir comment tu frappes à la porte du cœur de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il voit une dimension symbolique. Moi, je ne l'avais même pas vue. Vous l'aviez vue ? Et vous vous dites, subhanallah, ça veut dire qu'en fait, partout où tu entres, c'est une demeure. Et c'est vrai. Et Sakan, c'est bien la demeure. Ton cœur, c'est une demeure. Ton intelligence, c'est une demeure. Ta maison, c'est une demeure. Le Coran se comprend à plusieurs niveaux. Et ce qu'il faut de ce point de vue-là comprendre, c'est qu'il y a des niveaux de compréhension, des niveaux d'intelligence. Donc le sens. Ensuite, il y a l'objectif. Pourquoi ce verset ? Alors, tout de suite, qu'est-ce qu'on comprend ? On comprend en fait que l'objectif du verset est lié à la circonstance de sa révélation. Vous ne pouvez pas comprendre un verset si vous ne le mettez pas en situation. Et cette mise en situation, elle est effectivement révélatrice du sens. Elle est révélatrice du sens et parfois vous ne comprenez vraiment le sens du verset, son objectif, que quand vous connaissez la circonstance de la révélation. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'est pas donné à n'importe qui de prendre le Coran et dire « j'ai compris le sens de ce verset » comme ça. Il faut comprendre que tu peux spirituellement, n'importe lequel d'entre nous peut comprendre le Coran, ce qu'on appelle « al-qira'at ta'abudiyya », c'est-à-dire la lecture d'adoration. Mais pas n'importe qui d'entre nous peut comprendre le sens, l'objectif d'un verset. Quand par exemple vous avez cette... Là c'est vraiment simple, c'est élémentaire. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit ça, vous savez, si vous regardez les tafsirs qui vous le contextualisent, que c'est l'annonce de quoi ? C'est l'annonce de sa mort. Le prophète Hassan comprend par cette révélation-là, par les larmes de son ami, Abu Bakr, se dire, radiallahu anhu, il comprend que c'est terminé. Sa mission est terminée. Et donc, là, vous comprenez le sens en fonction du contexte. Alors ça, c'est des choses élémentaires, mais il y a énormément de ahkam, il y a énormément de versets qui doivent être lus à la lumière du contexte. De sabab et de nuzul. C'est-à-dire pourquoi ça a été. Et là, c'est une intelligence aussi. Alors, l'intelligence du sens, l'intelligence de l'objectif, et également l'intelligence des exigences. Pourquoi ? Parce qu'il y a certains versets qui vous disent une exigence, qui vous disent une prescription, puis en même temps, elle dit des conditions, elle dit des allègements, elle explique que... Donc, vous devez aussi connaître tout le contexte qui est lié à cette prescription. Et là, ça nous fait comprendre une chose... C'est que le Coran, il est accessible à chacun de nous en matière d'adoration. Il n'est pas accessible de la même façon à chacun de nous en termes d'intelligence, de compréhension. Il faut systématiquement aller plus loin, mais il n'appartient pas à quelqu'un qui n'a pas une vision globale du Coran de commencer à donner des avis juridiques ou à commencer à dire « j'ai compris ça ». Tafsir, l'exégèse, le commentaire du Coran suppose un travail, suppose une science. C'est une science, on n'est pas en train de jouer. Donc ici, le Coran, c'est un livre qui a plusieurs niveaux. Et à un haut niveau, il exige une science dans l'interprétation, une compréhension du message global. Et c'est ce qu'on va appeler quoi ? L'interprétation. Ça peut être le ta'wil ou le tafsir. Le tafsir, c'est le commentaire, et le ta'wil, c'est l'interprétation. Et regardez le secret de ce livre. Il est unique, ce livre. Il y a un Dieu, un prophète, un livre. D'accord ? Il n'y a pas... Et tawhid, tawhid, ça c'est l'axe de l'islam, un dieu. Le rasoul, un prophète. Ou le kitab, le Coran, un livre. Un, on n'a pas plusieurs. Mais en même temps, ce livre, il va être utilisé par les hommes, vécu et interprété par les hommes. Et immédiatement, quand il y a ikra, il va y avoir la dimension de l'interprétation. Et cette dimension de l'interprétation, elle est soumise à des règles. Pour pouvoir interpréter, il faut connaître l'arabe. Pour pouvoir interpréter, il faut connaître la grammaire. Pour pouvoir interpréter, il faut connaître les causes de la révélation. Pour pouvoir interpréter, il faut connaître les circonstances. Il faut savoir qui était impliqué. Pourquoi est-ce que ça vient à ce moment-là ? Il faut connaître le message global. Ça demande à savoir. Mais ce que vous allez voir par rapport à cela, c'est une chose extraordinaire. Un livre et plusieurs interprétations acceptées depuis le départ. Et c'est fondamental ça. C'est que l'islam, la religion unique pour nous, a accepté parmi les musulmans la divergence d'opinions. Avec un livre, des opinions diverses, mais acceptées. Acceptées dans les limites des règles d'interprétation. C'est-à-dire que quand vous avez un mot, ce mot il peut avoir plusieurs sens, Et il doit permettre l'interprétation en plusieurs sens, mais il ne peut pas avoir le contraire de son sens. Donc il y a des limitations. La limitation, c'est la lecture du texte en fonction des normes de la langue, qui doivent être connues, mais les normes de la langue permettent différentes interprétations. Par exemple, entre les savants, Kourou, par exemple, dans le Coran. Quand il est dit, par exemple, le terme des périodes de menstruation. Certains ont compris Kourou, c'est le moment où la femme est indisposée. Et quand il est mis en évidence 3, ils prennent les 3, et donc ça fait quoi? Ça fait 2 mois. D'accord? D'autres savants ont compris, non, c'est la période entre les périodes d'indisposition. Et ça change d'un mois. Ça veut dire 3 mois, et non pas 2. C'est des interprétations diversement acceptées. Pourquoi? Parce que le sens des mots permet cette marge d'interprétation. Et ça, qui le sait? Les savants. Et moi, ce que j'aimerais que vous compreniez, vous, de ce point de vue-là, par rapport au livre, c'est que chacun d'entre nous doit faire un effort pour intellectuellement le comprendre mieux, mais dans les limites de votre savoir. Il ne faut pas commencer à dire sur le Coran des choses que vous ne savez pas, ou surtout supposer que quand il y a plusieurs paroles différentes sur le Coran, c'est qu'elles sont fausses. Non, elles sont parfois acceptées. Il y a différentes opinions. En islam, un livre et des interprétations, parce que nous sommes des êtres humains. Première chose, il y a différentes intelligences, compréhensions du texte par rapport à la langue. Deuxième des choses qui est très très importante, c'est que vous avez différentes intelligences. Vous avez des gens qui voient beaucoup plus profondément que d'autres, ce que je disais tout à l'heure. Donc on a diverses interprétations. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous allez voir des tafsirs classiques, par exemple, hein, qui sont sortis dans les années au 9e, 10e et 11e siècle. C'est vrai que des fois, vous pouvez être très très étonné parce que c'est vraiment très simple. Même parfois, c'est simpliste. Le tafsir, il est simplement de vous relater les faits. Il n'y a aucune profondeur, pas d'analyse. Vous dites, mais je m'attendais à autre chose. Il y en a qui sont venus vers moi et qui m'ont dit, le tafsir d'Ibn Kathir, je m'attendais à quelque chose. D'abord, le tafsir d'Ibn Kathir, c'est quelque chose, en plus. Mais... En plus, c'est vrai que ce n'est pas un tafsir qui va vous amener dans les recoins de l'interprétation. Non, c'est simplement, il vous donne des éléments, des hadiths et des éléments, hein, des traditions prophétiques. Donc, de ce point de vue-là, on a des intelligences différentes du texte, donc il y a une diversité acceptée. Le livre, il permet différentes interprétations. Les intelligences permettent différentes interprétations. Et puis, il y a une autre chose aussi qui est très importante. C'est que depuis le départ, le prophète a accepté entre les compagnons différents types de lectures. Raison pour laquelle vous avez des savants qui connaissent les 7 lectures du Coran, ou certains les 14 avec celles qui sont apocryphes, c'est-à-dire qui ne sont pas reconnues. Qu'est-ce que ça veut dire? Majoritairement, ces différentes lectures n'ont pas de différents sens, mais parfois ça arrive qu'elles aient des sens différents. Et c'est accepté par l'islam. Alors j'aimerais vous dire une chose. Quand vous commencez à comprendre le sens du livre dans la vie, vous commencez à comprendre 2 choses. 1, il faut la haine, il faut apprendre. Il faut apprendre à lire. Il faut apprendre à être en contact avec ce livre. C'est fondamental. Chacun d'entre nous doit le faire, ceci. Et immédiatement, quand on commence à lire et à être en contact avec le Coran, on comprend une chose, l'humilité. Ce que je comprends n'est pas la seule chose qui peut être comprise. Et ce que je dis n'est pas la seule chose qui peut être dite. Et de comprendre une chose, et ça j'aimerais que, ici dans cette salle aujourd'hui, on l'entende. Ne citez pas le Coran comme si c'était Dieu qui parlait dans votre bouche. Ne faites pas comme si c'était vous qui aviez compris, je cite le verset, et c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Non. Citez le Coran avec l'humilité de dire, voilà ce que j'en comprends, mais il y a d'autres façons de le comprendre. Parce que tous les savants ont fait ça. Chaque fois qu'ils disaient quelque chose, ils finissent par quoi? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam, c'est-à-dire Dieu est plus savant, peut-être que je me trompe. Et tous les savants, ils disent, si vous trouvez dans le Coran, dans la tradition du prophète, quelque chose qui est de nature à contredire ce que je dis, ne retenez pas ce que je dis. Donc, le Coran, c'est l'apprentissage de l'humilité intellectuelle. C'est, je comprends ça, mais je n'ai peut-être pas là. Le problème avec nous, c'est qu'on cite le Coran comme si c'était Dieu qui parlait dans notre bouche, comme Allah subhanahu wa ta'ala qui parle. Bien entendu, Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé cela, mais il faut avoir l'humilité de la compréhension. Alors, le deuxième élément, rapidement pour rester dans les temps, c'est que ça, c'est un travail intellectuel. Alors, regardez bien comment cette dimension intellectuelle, elle exige de chacun de nous l'apprentissage. Et là, je sais bien, nous sommes en France. Et on me dit souvent, est-ce que c'est une obligation pour l'islam de connaître l'arabe? Alors, j'aimerais vous dire une chose, ce qui est le conseil le plus fraternel que je puisse vous donner. Le minimum, c'est d'apprendre l'arabe pour pouvoir avoir une lecture du Coran. Le minimum. Vous ne serez peut-être pas arabophone, n'aurez pas une maîtrise de la langue peut-être, mais le minimum, c'est de faire un effort pour pouvoir prendre le livre tel qu'il a été révélé et le lire selon les règles de sa révélation. Le minimum. Je vais vous dire une chose. Dès que vous savez le lire, et que vous avez des traductions, et que vous pouvez parfois revenir à la traduction, le livre s'éclaire. Quand vous êtes en train, pour certains d'entre vous, tout à l'heure, Inch'Allah, je l'espère, vous allez faire le tarawih. Mais quand vous faites le tarawih et que vous entendez l'imam dire le Coran et que vous comprenez ce qu'il dit, ça change beaucoup de choses. Parce que à des moments donnés, vous faites le tarawih et vous attendez qu'il finisse. N'est-ce pas? Elles sont long. C'est long. Parce qu'on ne comprend pas ce qu'il dit. Là, ce qu'il faut, ce n'est pas ça. C'est comprendre. À des moments donnés, vous êtes dans une disposition spirituelle, vous ne vous rendez même pas compte du temps qui passe parce que vous êtes vraiment dans le texte. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parfois, il faut se préparer. Vous savez que dans le Tarawih, il va dire ça. Vous prenez le texte, vous le lisez, et même vous le lisez en français pour savoir ce qu'il va dire. Comme ça, vous suivez un peu, vous avez des mots qui viennent. Plus vous faites ça, plus les mots vont venir. La somme de mots du Coran n'est pas infinie. Au bout d'un moment, plus vous faites ce travail arabe, français, plus le secret vient et vous commencez à comprendre ce qui est dit. Il faut que vous acquériez ça. Toute conscience musulmane qui entend le Coran et qui ne comprend pas ce que ça veut dire en arabe est en train de perdre l'une des perles de la vie. Vraiment. Parce que quand vous commencez à savoir, ça vous prend. Ça ne veut même pas dire, comprenez-moi bien, que quand vous ne savez pas, ça ne vous prend pas. Là, ce moment-là, il a mis du secret dans cette langue. Des fois, tu ne comprends rien et ton cœur, il part avec. Je rappelle toujours cette histoire-là d'un jeune homme. Moi, je vous le dis, mais je ne vous le dis même pas en plaisantant, ça a été un de mes chiours dans cette vie-là. En France, ce jeune homme de 14 ans qui un jour à la fin d'une conférence comme celle-ci dans une mosquée me regarde droit dans les yeux avec les yeux rouges par la drogue et qui me dit pourquoi vous parlez pas de ce qui nous intéresse, pourquoi vous êtes toujours dans les nuages, pourquoi vous parlez pas de notre vie. Et ce jeune homme, je voulais le prendre avec moi pour aller discuter. Il se trouve que j'avais ma voiture à l'extérieur de la mosquée, je l'ai pris, je l'ai mis dans la voiture et je sais pas ce qui m'est arrivé. Je veux dire, j'ai poussé la cassette. Je le voyais, il n'était pas bien, il était comme ça. J'ai poussé la cassette et le Coran s'est mis en marche. Il s'est mis à pleurer. Il était loin, il comprenait. Après, je l'ai suivi, il ne comprenait pas. Il ne savait pas l'arabe. Mais il y a quelque chose qui l'a pris. Il m'a dit, c'est ça. Il se mettait à pleurer. Alhamdoulilah, maintenant, il est plus près et ça avance. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que parfois, l'arabe, même si vous ne le comprenez pas, le Coran, il a un secret. D'accord? Il a un secret. Youssouf Islam, Cat Stevens, il est venu à l'islam, il a dit, vous savez, moi, c'est pas les hommes. Qu'on soit pas prétentieux, c'est pas nous qui avons amené des fois les gens à l'islam. Des fois, c'est l'exemple des jeunes. Mais lui, il a dit, moi, c'est le Coran. Jeffrey Lang, un de ceux qui a écrit le plus aux États-Unis, il a dit, c'est pas les hommes, les musulmans n'ont pas amené à l'islam, c'est le Coran. Il y a quelque chose. Donc, même le Coran, quand tu ne comprends pas, quand tu ne comprends pas l'arabe, il peut. Il a ce secret-là. Mais nous, quand on est avec Allah subhanahu wa ta'ala, quand on sait cela, ceux parmi vous, il faut faire cet effort, au moins pour quand vous entendez le Coran lu en arabe, de comprendre ce qui est dit. Au minimum ça, pour que vous ne soyez pas simplement des gens qui répètent les mots et qui n'en comprennent pas le sens. Donc il y a un secret. Il y a un secret et le Coran, spirituellement, il parle à plusieurs niveaux. Il parle effectivement simplement parce que il est construit, et c'est pour ça qu'il est dit dans le Coran. Venez avec une sourate, venez avec 10 sourates, venez avec un Coran comme celui-ci. Jamais personne n'a pu rentrer en compétition avec ce texte. Non pas simplement pour la forme, mais cette forme particulière, cette façon de revenir sur la sonorité, cette façon de nous prendre, lorsqu'on parle là, qui nous parle, c'est quelque chose qui parle à ton cœur, c'est quelque chose qui nous parle et vis-à-vis de laquelle il faut se mettre en disposition. La raison pour laquelle il faut savoir écouter ce Coran. Ansitu, est-il dit dans le Coran, ça veut dire taisez-vous, c'est-à-dire faites silence. Il y en a certains d'entre nous, vous savez, il vaut mieux éteindre le Coran quand vous parlez que de le mettre en bruit de fond. Il y en a certains, ils l'ont dans la voiture, puis ils commencent à parler. Là, non, attention, là aussi, Adam. D'accord, Adam, ça c'est vraiment important, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à ce Coran. Vous l'écoutez, vous ne l'écoutez pas, mais vous ne le mettez pas. Ce n'est pas la télévision qu'on met en toile de fond ou en musique de fond. Non, ce n'est pas la radio. D'accord ? Et là, de ce point de vue-là, ils font une attitude aussi de concentration quand on le lit. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il a aussi des secrets. C'est ce que je voulais vous dire. À un moment donné, plus on le lit, plus il révèle ses secrets. Alors, pourquoi est-ce qu'on le lit si souvent? Parce que c'est dit, justement, il les rappelle. Mais plus notre vie avance, plus on vieillit, plus chaque fois qu'on l'entend, il dit autre chose. C'est jamais la même chose. Et ça vient d'où? Ça vient du rapport que l'on a avec son cœur. Ça vient du rapport qu'on a avec sa vie. Et là, chacun d'entre nous, c'est pour ça que le prophète Al-Sulam disait Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Dieu fait de que nous soyons des gens du Coran. C'est-à-dire ces gens qui sont dans la lecture et qui font tout ce travail spirituel d'en comprendre le secret. Et là, à des moments donnés, il ne faut pas commencer à y ajouter de la quantité. Certains d'entre vous, alors pendant Shahr al-Ramadan, le minimum en français ou en arabe, c'est d'essayer de s'en tenir à un trentième par jour. Essayez de lire en un mois. Si vous ne pouvez pas la moitié, mais vous devriez pouvoir avoir des moments comme ceci où vous avez un temps, vous lisez un trentième, de façon à avoir lu tout ce Coran. Si vous pouvez le faire en arabe, à la barakatillah. Si vous ne pouvez pas, vous le faites en français. Mais avoir cette... Et là, ça c'est pendant le mois du Coran, et il faut le faire bien, de façon concentrée. Mais dans la vie de tous les jours, comme le mois du Ramadan, c'est une école pour tout le reste des mois, il faut avoir un contact régulier, quotidien avec ce livre. Et là, j'aimerais vous dire une chose, il y en a certains, ils se disent, chaque jour, je lis 15 pages. Alors, ils sont comme ça, chaque jour, 15 pages. Effectivement, ils lisent 15 pages, mais comment? Donc, ils disent, bon, j'ai 10 minutes, 15 pages, allez, hop. Non, lis 3 versets, plutôt que 15, 3 versets bien, plutôt que 15 pages. Lis en fonction du temps que tu as et de la disposition spirituelle que tu as. Tu as 10 minutes, lis 2 versets, mais médite-les, réfléchis, sache ce que tu dis. Sache ce que tu dis, c'est-à-dire arrête-toi et comprends ce que tu es en train de lire. Moi, à des moments donnés, j'ai un rendez-vous, j'ai quelque chose, je suis en retard, je m'arrête juste un petit moment, j'ouvre le Coran et le premier verset en haut à droite. Je le lis et je m'arrête un tout petit peu, puis simplement je réfléchis à ce verset-là. Et des fois, il vous illumine, des fois même, je vous promets, à des fois même, c'est un signe pour ce qui va arriver. Il m'est arrivé à des moments donnés d'être dans des rendez-vous, je me dis, Subhanallah, ce que je viens de lire, c'est quelque chose qui a à voir avec ce qui m'arrive maintenant. Vous ne savez pas. Alors, ceux qui ne croient pas en Dieu disent, le hasard fait bien les choses. Et ceux qui sont avec Ar-Rahman disent, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et donc ici, il faut ce contact-là. Donc il ne faut pas vous mettre un poids. Alors, le prophète a dit que Dieu aime ces choses qui durent, même si elles sont petites. Donc, il vaut mieux avoir un contact comme ceci et pour essayer de trouver les secrets. Et pour trouver les secrets, ça demande de la réflexion. Vous savez, en même temps, que ce Coran, c'est une formidable protection. C'est un livre de la purification. Et vous avez dans le Coran, وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. Quand tu lis le Coran, nous mettons entre toi et ceux qui ne croient pas au jour du jugement dernier une protection, un voile épais. Alors la circonstance de la révélation, c'est effectivement que quelqu'un venant insulter, s'en prendre, le prophète ne l'avait pas vu. Mais ce que ça veut dire pour l'éternité, c'est que dans la lecture de ce livre, il y a une protection, ça te protège. Ça te protège. Quand, par exemple, vous allez vous coucher, juste avant de dormir, les deux dernières sourates du Coran, les dire, c'est se protéger. C'est se protéger d'avoir en permanence à la bouche Ayat al-Kursi. Pas comme un pendentif. Pas simplement dire Ayat al-Kursi. Non, il y en a qui l'ont comme un pendentif et ils croient que ça suffit. Ça, c'est de la superstition. Oui ? Ayat al-Kursi, c'est bien de l'avoir, mais pas en pensant, puisque je l'ai là, je suis protégé. Non, c'est comprendre ce que l'on dit. Ayat al-Kursi, c'est le verset tiré de Sourate al-Baqarah qui est une protection contre ce qui peut nous arriver de mal. Mais là, on est dans l'ordre de la spiritualité. C'est comme ça qu'il faut être avec le Coran. C'est savoir que c'est vrai ce que je vous dis. C'est pas visible, mais c'est vrai. Il y a plein de choses qui sont vraies, qui ne sont pas visibles. Je peux vous donner un exemple. Je ne le ferai pas, c'est Ramadan. Je peux frapper le frère. Il aura mal, c'est vrai, et ce sera invisible. Vous ne verrez pas son mal et il aura mal. Il y a plein de choses vraies qu'on ne voit pas. Plein dans la vie. La spiritualité, c'est ça. C'est de savoir vrai ce que mes yeux ne voient pas. Et c'est vrai. Haqqun hadha. C'est la formule de Masoud toujours. Haqqun hadha. C'est vrai cela. Donc de ce point de vue, il faut véritablement, de ce point, véritablement faire tout ce travail et savoir que c'est une protection. Donc à des moments donnés, quand vous vous sentez vulnérable, quand spirituellement vous vous sentez vulnérable, des fois, il faut se revenir au texte, s'isoler du monde, faire un exil vers le texte. Exile-toi d'eux d'un bel exil, c'est parfois ça. L'exil, c'est parfois le retour au livre. Retour à lui, ça veut dire retour à moi. Le livre, c'est ce par quoi je reviens à Dieu en pensant à moi. Le livre, c'est ça. Je reviens à Dieu et je pense à moi. C'est-à-dire que je reviens. Le livre, il me renvoie à moi, toujours. Et je pense à lui. Et ça, ça doit être... C'est comme ça que les secrets sont révélés. C'est comme ça qu'on comprend la dimension spirituelle. Quand le prophète, il va vers les compagnons, il dit « Est-ce que vous pouvez lire le tiers du Coran en une nuit ?» Il dit « Mais non. Comment est-ce que je peux lire le tiers du Coran en une nuit ? C'est pas possible. » Il lui dit « Lis surat al-Ikhlas. » أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Je viens de lire un tiers du Coran. Là, c'est pas vrai. Je viens simplement de lire 5 versets. Mais quand je le lis de tout mon être, de tout mon cœur, et que je suis avec l'unique, là, c'est un tiers du Coran. Vous voyez la différence ? Vous pouvez lire à la surface et lire avec le cœur. Cette dimension, c'est là que le Coran devient un chemin. C'est là que le Coran devient vraiment ce chemin, cette guidance. Hudan lil muttaqin. Hudan, c'est-à-dire véritablement un vrai travail qu'il faut faire sur soi. Posez-vous la question. Chacun d'entre vous, aujourd'hui, ici, c'est là, on est là pour la responsabilité personnelle. On n'est pas là simplement pour se réunir à 400. On est là pour se poser la question spirituellement. Mais qu'est-ce que je fais, moi, de cela ? Quand on est dans une société, c'est là que c'est le plus important. Quand on est dans une société, qui est une société où on a du confort, où on a de la consommation ? La relation avec le Coran est un djihad. La relation avec le sens spirituel, ça devient un djihad. C'est-à-dire laisser les choses, laisser la consommation, laisser les choses qui nous prennent, et puis venir finalement prendre du temps pour lire et comprendre le sens du savoir. J'aimerais vous dire une chose, plus vous lisez le Coran, plus vous avez envie de savoir de choses. Parce que ça vous parle de tellement de choses, vous avez envie de connaître plein de choses. Connaître, mais pas simplement les sciences islamiques, toutes les sciences. Vous avez envie, vous devenez curieux des hommes. Parce que le Coran, il vous renvoie à cette curiosité-là. Allez de par le monde et regardez, c'est ce que nous dit le Coran. Et nous, on est là, on lit ceci de façon beaucoup trop mécanique. Peu de Coran chaque jour, approfondir cette réflexion-là, comprendre que c'est une protection spirituelle, connaître les quelques sourates, les quelques versets qui sont des protections spirituelles, connaître par exemple que... Des petites sourates, cette petite sourate qui parle du tremblement comme ça, dont le prophète a dit, elle est comme la moitié du Coran. Un quart du Coran. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire méditer ça. C'est petit, mais c'est profond. C'est simple à la compréhension, mais c'est très profond spirituellement. Si seulement on y vient. Alors il y en a, ceux que j'appelle ceux qui font la prière TGV, vraiment, ils expédient ces sourates, ils n'y réfléchissent même pas. Et mieux, parfois, ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Alors, ce travail-là, ça n'est absolument pas possible. Le Coran doit devenir cette lumière, le fulcrum, ce discernement dans nos vies et les passages à répéter. J'aimerais terminer, ce sera ma conclusion en deux ou trois minutes avant que la prière de Rasr, et puis ensuite on reviendra pour les questions, parce que là, je vois que c'est le déferlement. J'aimerais simplement terminer pour vous dire une chose. Vous avez deux solutions avec tout ce qu'on vient de dire. Simplement, effectivement, cette lecture, ou alors faire du livre, du Coran, un livre et un chemin pour aujourd'hui dans votre vie. Et c'est là ce que ça veut dire. Ça veut dire vivre avec lui. Ça veut dire s'inspirer de ses enseignements. S'inspirer de ses enseignements, c'est plusieurs choses. Alors, faites attention, parce que je vois souvent certains, ils sont très contents avec le Coran, ils disent c'est un livre scientifique, il y a tout le savoir scientifique qui est dedans. Ceci est la vérité. Oui, vous connaissez la cassette, vous connaissez peut-être le livre. Attention, le Coran n'est pas un livre scientifique. Tout ce qui y est pour nous ne contredit pas les sciences, mais ne le réduisez pas à un livre scientifique. C'est un livre de foi, c'est un livre d'orientation, c'est un livre de guidance, de morale. Ça n'est pas un livre de mathématiques ou de chimie ou de physique. Mais plus les sciences avancent, plus on se rend compte qu'il n'y a pas de contradiction. Et c'est tout ce qu'il faut dire. Et il y a des choses qu'on comprend mieux aujourd'hui. Avec plus il y a de science, plus on comprend mieux. Quand il est dit, est-ce que l'homme croit qu'on ne va pas pouvoir réunir ses os? Non, nous sommes au contraire capables de refaire jusqu'à sa phalange, son doigt. Les premiers musulmans qui reçoivent ça au 7e siècle disent, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, est-ce que l'homme croit qu'on ne va pas pouvoir réunir tous les os de son corps? C'est tout. Non, nous allons pouvoir faire jusqu'à son doigt. Ceux qui ont reçu cette révélation, qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils ont compris simplement, non seulement il va réunir tous nos os, mais il est même capable à faire ce petit morceau de notre corps. Qu'est-ce qu'ils ne savaient pas à l'époque? Ce qu'ils ne savaient pas à l'époque, c'est que sur ce petit morceau de doigt, il y a une chose que j'ai et qu'il n'y a personne dans la salle d'autre qui est que moi. Il n'y en a pas un d'entre vous, pas un sur la surface de la terre, pas un autre comme moi qui ait cette empreinte digitale. Vous ne pouvez pas le savoir. Vous pensez qu'on ne peut pas refaire vos yeux? On va même refaire ça. Alors, quand on arrive à faire ça, cette petite empreinte digitale, il en est capable. C'est avec la connaissance scientifique qu'on s'aperçoit qu'on apprend mieux le Coran, on sait mieux ce que ça veut dire. Donc les connaissances scientifiques nous aident à plus approfondir. Mais ne faites pas du Coran un texte où on commence à citer pour les sciences. Dire par exemple, oui, alors Darwin s'est complètement trompé, le Coran dit que... Attention, d'abord il faut étudier Darwin, puis ensuite il faut étudier le Coran, parce qu'il y en a parmi vous qui disent sur Darwin, c'est des choses qu'il n'a jamais dites. Il répète simplement, et parfois dans le Coran il y a des choses qui ne sont pas en totale opposition avec un certain nombre de thèses reconnues par les savants, à savoir par exemple qu'il y a une évolution... Qu'il y a des évolutions, des savants réformistes ont dit que le Coran ne s'y oppose pas. Et yom, jour, c'est pas 24 heures, c'est des périodes de temps. Tout cela, les savants sont venus. Alors faites attention, vous, avec votre compréhension, de ne pas venir réduire le texte. Donc le Coran, c'est pas un texte scientifique. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est l'avoir dans sa vie pour s'inspirer dans sa vie, de sa dimension-là. Alors c'est s'inspirer dans son intelligence. Ce que je viens de vous dire, par exemple, ça nous permet de réfléchir. Les histoires des prophètes. Les histoires du prophète sont extraordinaires. À des moments donnés, vous regardez votre communauté et vous regardez même des gens que vous avez aimés. Vous avez vu, il y a des gens que vous avez aimés avec lesquels vous avez vécu, puis le jour où ils vous voient être plus pratiquant, où ils vous voient être plus spirituel, ils vous rejettent. Et puis vous regardez le Coran, vous dites, mais tous les prophètes sont cités de cette façon-là. Ahrahum, Hud, Ahrahum. J'aurais tous, ils ont été rejetés par ceux qui les ont aimés. Que finalement, votre peine à vous, elle n'est pas neuve. Il y a une histoire de la tension entre les hommes. Que quand vous lisez Surat Yusuf Islam, il est venu à l'islam par Surat Yusuf. Et Surat Yusuf, elle raconte une histoire extraordinaire. C'est qu'à un moment donné, il y a une espèce d'attraction comme ceci avec une femme. Et lui, il dit, la prison est mieux pour moi que ça. 2003 à Paris, ça parle encore, non? Non? Ça parle pas, cette histoire de la tentation? Cette histoire du corps qui vous prend et que parfois vous avez de la peine à retenir avec le cœur? Ça parle encore. C'est ça qu'il faut avoir dans son cœur. C'est cette dimension de l'enseignement des histoires, parce qu'à ce moment-là, il sait que nous avons encore un côté enfant. Nous aimons ces histoires. Ces histoires nous disent plus parfois que le raisonnement intellectuel. Donc il faut les avoir en soi. Se souvenir des prophètes, se souvenir du prophète, ainsi de cela. Et donc dans ces histoires, l'avoir comme ceci, s'inspirer dans sa vie quotidienne et faire ce double travail. L'intelligence pour comprendre et le cœur pour s'orienter. Et la compréhension du cœur, il faut le mettre à disposition. Raison pour laquelle il ne faut pas une lecture rapide. Vous savez, le prophète Al-Sattosan disait, on terminera là-dessus, Inna hadha al-Qur'ana nazala bi huzn. Ce Coran est descendu avec la tristesse. Fa'idha qara'tumuhu fabku, fa'in lam tabku fatabaku. Ce Coran est descendu dans la tristesse. C'est un livre qui est lourd. Inna sanulki 'alayka qawlan thaqila. Nous allons faire descendre sur toi des paroles spirituellement très très lourdes. Eh bien, il est descendu dans la tristesse. Si vous le lisez, pleurez. Et si vous ne pleurez pas, concentrez-vous, orientez-vous, poussez-vous à pleurer. Ça veut dire en fait qu'il doit y avoir un état, une façon d'être avec le Coran qui à des moments donnés est une disposition totale du cœur, qui peut être justement cette proximité, pleurer. En d'autres termes, se rapprocher de Dieu, c'est parfois par les larmes. Se rapprocher de Dieu, c'est parfois quand le livre dit des choses sur vous que vous avez envie de vous cacher, vous avez envie de vous mentir. Le Coran, c'est un révélateur de vérité. Vous ne pouvez pas vous mentir longtemps devant le Coran si vraiment vous le lisez avec cette profondeur. On ne se ment pas devant le Coran. On ne se ment pas. On sait à des moments donnés quand le Coran parle des hypocrites qui parlent de nous. On sait à des moments donnés que quand le Coran parle de ceux qui changent les choses, il parle de nous. On sait à des moments donnés que quand le Coran parle de ceux qui sont ostentatoires, c'est-à-dire qui montrent aux gens et qui cachent derrière, il parle aussi de nous. Chacun d'entre nous, s'il est vrai avec lui-même, sait que le Coran parle de lui. Parce que le Coran parle de tous les hommes. Et c'est cela le début du travail. Si vous savez qu'il parle de vous, il vous donne spirituellement le chemin de dépasser ce que vous êtes pour être meilleur. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an, wa thabbitna min al-Qur'an, wa sturna min al-Qur'an. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'était une fausse pause, donc. Bien. La femme a-t-elle le droit de lire le Coran sans le voile? Oui. Il y a effectivement des savants qui disent le mieux c'est une tenue et c'est une attitude, c'est l'attitude qui compte. Peu de savants, ils sont une minorité qui ont imposé le foulard pour la lecture, mais effectivement, une femme avec le Coran, quand elle le lit, peut le faire sans le foulard. Ce qu'il faut pour tout le monde, c'est la pudeur de l'être et la présence du cœur. Oui, mais cette prescription-là n'est pas une obligation. Lorsqu'on lit le Saint-Coran en français, a-t-on le même salaire que lorsqu'on le lit en arabe? Pratiquement, les savants disent non. Que le hasanat, c'est qara'at al-Qur'an bil-lughah al-arabiyya, c'est-à-dire qu'il faut de ce point de vue-là. Dans l'intention, parce que vous savez que chaque harf, il vous donne des hasanat. D'accord? Chaque harf, c'est-à-dire, pardon, chaque lettre, d'accord, vous donne une hasana. Donc, la lecture en arabe, l'effort que vous faites pour lire en arabe, vous apporte ces hasana. Maintenant, dans l'intention que vous faites de lire en français, il y a bien sûr des hasana. Mais ce travail à faire pour le lire en langue arabe est, inshallah, plus récompensé dans la langue originelle. Et comme je sais que vous êtes un peu commerçant dans la région, dépêchez-vous d'avoir des hasana en apprenant un peu l'arabe. Non mais c'est vrai, c'est important aussi de se rendre compte, mais bien sûr que vous avez des hasanat en français, mais l'effort de la lecture en langue arabe, et puis pas simplement dans la lecture de la langue arabe, tilawa, c'est-à-dire comment on le dit, tilawa sahiha, c'est-à-dire vraiment la bonne prononciation, la bonne, ça c'est ce qui nous donne. Alors pourquoi existe-t-il plusieurs explications du Coran? Ça c'est une bonne question. D'accord, c'est la même? Alors, il y a plusieurs tafsirs, d'accord? Il y a plusieurs exégèses du Coran. Et pourquoi il y en a plusieurs? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs intelligences du texte. Il y a des gens au même moment, ils voient des choses différentes et ils ajoutent à la compréhension. Mais ce qui est très important, c'est que si ce texte, il est éternel, oui? Si ce texte, il est éternel, au moment où vous allez le lire, en fonction du lieu où vous vivez, vous allez y voir d'autres choses. Donc en fait, chaque siècle, chaque période de temps, chaque culture va avoir des explications du Coran en fonction du contexte. Ça ne relativise pas le texte, au contraire, ça le rend plus universel. Le texte reste le même et notre compréhension est diversifiée. On comprend à partir de nos lieux. Quand vous voyez qu'il y aura des espaces d'ombre et de l'eau et du lait, vous pensez que vous avez la même impression que ceux qui étaient dans le désert, qu'il n'y avait pas d'ombre, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de lait? Quand tu lis ça dans le Coran, tu te dis, Mashallah,
toi, en plein hiver, tu lis ce passage-là, tu te dis, mashallah, c'est pas la même chose, parce que là, il parlait un contexte qui était de dire, là où vous êtes exposé au soleil, sachez que le paradis, c'est l'ombre. Oui ? Ben là, vous, quand vous êtes dans une situation de froid, c'est autre chose que vous allez voir dans le Coran. Chaque contexte, il voit quelque chose de particulier à sa situation. Et c'est parce que partout le Coran parle, qu'il parle pour partout. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est que partout il parle aux gens, donc il est pour tous. C'est ça son universalité. C'est de pousser les intelligences à l'interpréter en fonction des temps et des lieux. Et il y en a qui l'ont fait. On a besoin d'un tafsir du Coran pour l'Europe au jour d'aujourd'hui. Vraiment, pour que tu te dises, subhanallah, ça me parle à moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça va venir, Inch'Allah, ça, un d'entre vous, ou une d'entre vous. Vraiment, prendre le Coran et dire, voilà ce que ça dit, avec un savoir, hein, pas... vous savez ce qu'Abou Bakr a dit ? Comment est-ce que moi, je commencerai à interpréter le Coran et faire une faute devant le Dieu des sept cieux ? C'est-à-dire que c'est grave. D'accord ? Donc il faut, de ce point de vue-là, avoir une approche qui est circonstanciée. Juste une chose, le prophète a parfois expliqué des passages du Coran. Il a parfois expliqué ce que ça voulait dire quand on lui posait des questions. Mais il vivait à une époque et ce texte avait pour cette époque un sens spécifique. Pour nous aujourd'hui, il a un sens et un autre sens aussi en fonction de l'environnement. Donc c'est aussi à nous de faire le travail d'explication.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
Bismillahir rahmanir rahim. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة.
Pour plus d'informations sur nos productions, visitez notre site www.islam-france.com.